des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, cette année 2009, il y aura tout juste 100 ans que naissait la philosophe française Simone Weil. Née à Paris, dans une famille juive non pratiquante, Simone Weil étudie au lycée Henri IV avec le philosophe Alain. Suivant le modèle de son frère, brillant mathématicien, elle entre à son tour à l'école normale supérieure, mais passe, elle, son agrégation de philosophie en 1931. Elle enseigne ensuite au Puy, à Roanne et à Saint-Étienne, où elle se rapproche de la classe ouvrière. Elle écrit ses premiers essais, Oppression et liberté, en confrontant sa conception du marxisme avec la réalité du travail qu'elle expérimente ensuite dans les usines Alstom et Renault. Toujours en quête d'absolu, Simone Weil rejoint le Front républicain espagnol en 1936 et connaît sa première révélation mystique à l'abbaye de Solesmes, 2 ans plus tard. Dès lors, elle veut comprendre la volonté de Dieu et l'articuler intellectuellement avec ses propres expériences religieuses. Elle donne dans « Pensées sans ordre concernant l'amour de Dieu » une interprétation mystique de la religion chrétienne, pleine de son désir de sacrifice. En 1942, forcée de se réfugier aux États-Unis, Simone Weil refuse de quitter ses compatriotes et revient aider les forces françaises libres en Angleterre. Atteinte de tuberculose, elle s'éteint à 34 ans dans un sanatorium anglais à Ashford, le 24 août 1943. Simone et André Weil, le frère et la sœur. Lui tourné vers les mathématiques au plus haut niveau, elle vers la philosophie au plus haut niveau et vers un très haut degré d'absolu. Oui, chez les Weil, le génie est bicéphale. Et de plus, ces deux êtres-là se ressemblaient physiquement. Simone ressemblait à André comme une jumelle et maintenant une troisième voix s'ajoute à celle de Simone et d'André. Une voix qui est présente dans le studio de Canal Academy, la voix de Sylvie Weil, fille d'André Weil, le mathématicien, et donc nièce de la philosophe Simone Weil, sœur d'André. Bonjour Sylvie Weil.
Bonjour.
Sylvie Weil, vous venez de faire paraître aux éditions Buchet-Chastel un livre intitulé « Chez les Weil ». Et effectivement, sur la page de couverture de votre livre, figure une photo de Simone Weil et de son frère André. Et là, manifestement, c'est très troublant, entre le frère et la sœur, cette ressemblance est vraie. Et je dois dire, vous ayant face à moi, que cette ressemblance ne s'arrête pas là. Vous ressemblez à Simone Weil.
Oui, je lui ressemble énormément. Maintenant, évidemment, je suis beaucoup plus âgée qu'elle n'était, la pauvre, quand elle est décédée. Mais je lui ai toujours ressemblé. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai envoyé le prospectus du livre, puisqu'il n'était pas encore paru, au monsieur qui s'était occupé de mon père les dernières années de sa vie. Et il m'a téléphoné de Floride pour me dire... C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre une photo de toi, jeune fille, avec ton père, jeune homme? Je dis, mais c'est pas moi, jeune fille, c'est ma tante, c'est Simone.
Ah oui, c'est oui, vraiment ça a troublant.
Été, ça fait partie du texte du livre, évidemment, parce que ça a été un destin, cette ressemblance.
Et c'est d'ailleurs à partir de cette phrase que le point de départ de votre livre a été donné.
Oui.
Tout est parti de cette ressemblance. Mais alors, vous écrivez, je ressemblais au double de mon père. Mais vous dites, vous ajoutez un double terrifiant pour moi. Alors oui. Pourquoi de ce mot terrifiant ?
Terrifiant parce que c'était un double qui avait, à partir du moment où j'ai eu déjà 8, 9, 10 ans, c'était un double qui était en train d'être élu sainte dans certains milieux, qui était d'une force intellectuelle remarquable, qui a laissé non seulement des écrits mystiques, mais des écrits politiques dont on me dit qu'ils sont de première force, des écrits philosophiques, enfin quelque chose de très beau qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, qui est donc sur l'Iliade. Elle touchait un peu à tout, et puis elle a été faite sainte d'une certaine manière, non pas canonisée officiellement, mais enfin elle est devenue un personnage tout à fait important pour certains. Et c'est pour ça que c'était terrifiant, une gamine qui grandit et à qui on répète constamment qu'elle ressemble à sa tante. Et moi, je me sentais à la fois, ça fait le sujet de certains chapitres, extrêmement fière et honorée et contente. Toute gamine est contente de se sentir distinguée parmi les autres. Mais j'étais aussi consciente de ma médiocrité. Moi, j'étais le petit prix d'excellence ordinaire, j'étais le concours général, d'accord, mais je n'étais pas du tout à la hauteur. Et en même temps, j'étais une gamine extrêmement heureuse, j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, épanouie. Je n'ai pas pitié de moi, mais c'était terrifiant de tant ressembler à quelqu'un de cette envergure qui était morte donc très jeune. Et quelqu'un qui est mort jeune laisse une trace peut-être encore plus fulgurante, encore plus impressionnante, non seulement dans la famille, mais en général. Et puis, oui, le côté sainte, et ainsi que je le dis avec amusement, parce que je me suis amusée à écrire certains chapitres de ces livres. D'autres sont plus tristes, mais je me suis beaucoup amusée. Et quand j'écris qu'on peut reprendre l'affaire d'un jeune oncle mort, mais qui avait une fabrique de chaussures, ou même succéder à un père médecin, ou avocat, ou plombier, ou peintre en bâtiment, reprendre l'affaire d'une sainte, c'est tout simplement impossible. Donc, mon avenir de ce côté-là était barré et c'était terrifiant, oui.
Terrifiant, mais vous le dites en riant. Donc, c'est bien
oui,
le ton que vous
bien
donnez
sûr.
Dans ce livre.
Je le dis absolument en riant.
Humour et
oui,
émotion.
Oui, oui, le livre n'est pas une longue suite de Jérémiade, ça c'est clair.
Quelle différence d'âge, justement, aviez-vous avec votre tante ?
33 ans, oui, c'est ça. Je suis née peu de mois avant sa mort. Oui, oui, oui. 34 ans, oui.
Donc, quel souvenir gardez-vous d'elle ?
Moi, aucun. Elle m'a connue à quelques semaines. Elle m'a tenue bébé. Elle m'a donné mon biberon. Elle m'a raconté des contes que j'étais en mesure de comprendre, peut-être de façon inconsciente, comme les nourrissons comprennent ce qu'on leur raconte, mais je n'en ai aucun souvenir. Elle, en revanche, après ma naissance, a toujours énormément parlé de moi, et des témoins ont dit qu'elle parlait vraiment beaucoup, beaucoup de moi pendant ces derniers mois d'existence. Elle, toutes ses lettres à mes grands-parents, à mon père, ses télégrammes même, ne m'oublient jamais. Il y a toujours une phrase pour le bébé.
Ce sont deux vies qui se sont
À peine entrecroisées, oui, c'est ça, à peine.
Et qui se sont suivies l'une l'autre. Oui. Une espèce de passation dans l'émotion.
Oui, justement. Et c'est le rôle qui a été le mien dans cette famille. Je suis celle qui naît au moment où elle meurt, et elle le dit de façon très, très spécifique. Elle écrit à ses parents dans sa dernière lettre, sa toute dernière lettre, 3 semaines à peine avant sa mort, elle écrit « Vous avez une autre source de réconfort ». Et le réconfort, la source de réconfort, c'était moi.
Alors vous, en ayant hérité de la bosse des maths de votre père ou du souffle philosophique et mystique de votre tante, vous vous situez comment ?
En vérité, ni de l'un ni de l'autre. Et vous me posez la question que m'a posée le professeur, que je suis allée voir à 22 ans, toute nouvelle agrégée et de lettres classiques et passionnée de grec. Et j'arrive chez ce professeur qui m'intimidait follement et que j'admirais follement pour avoir suivi ses cours. Et je voulais faire une thèse de grec. Et ce professeur me demande, ce sera Platon comme votre tante ou Diophante comme votre papa, et j'ai été anéantie. J'étais bonne en maths normalement, j'étais pas spécialement bonne en philosophie, très franchement, et je voulais faire de la littérature, moi.
Et oui, toujours à l'ombre de d'Eugénie.
À l'ombre, oui. Et cette, je pense que j'aurais été plus âgée, j'aurais peut-être ri, j'aurais répondu, mais j'ai été anéantie par cette question. Anéantie, je me suis enfuie et je n'ai pas fait de thèse de grec.
Anéantie momentanément.
Momentanément, oui, l'espace d'un après-midi, à peine, mais je n'ai pas su répondre à ça.
Alors, dites-nous aussi, dans votre livre, on retrouve quelquefois, dans quelques pages, ma tante, donc Simone Veil, philosophe française, m'a jeté un sort. Ma tante m'a jeté un sort. Il s'agit de quoi ? Racontez-moi.
Mais je n'en sais rien, justement. Elle a sorti un jour où elle me donnait mon biberon, elle est sortie de la pièce et elle a dit d'un air très malicieux, je lui ai jeté un sort. Et ensuite, je crois bien qu'elle l'a écrit à mon père un peu plus tard, le sort que j'ai jeté à Sylvie. Elle a également écrit, très joliment, il y a 7 démons qui habitent en Sylvie. C'était elle aussi qui m'avait jeté ces 7 démons. Alors, je me suis souvent demandé quel avait été le sort. Quel démon m'habitait. Et je n'ai pas tout à fait la réponse. J'ai des réponses partielles.
C'est peut-être tout le parcours d'une vie qui vous donnera ces réponses et ces clés. Dans votre évolution, dans votre construction personnelle, individuelle, à la lecture de ce que votre tante a écrit, vous vous sentez de plus en plus proche d'elle ? Vous voyez votre individualité se construire, se créer, se développer, se rapprocher d'elle ou s'en écarter ? Toujours être double d'elle ou différente avec la maturité ?
C'est une question immensément compliquée. Une question très belle, mais une question très compliquée. Quand j'étais petite, adolescente, je lisais en cachette surtout ses lettres, mais enfin je lisais ce qu'elle avait écrit sur l'Iliade, que j'admirais beaucoup, quand j'ai commencé à faire du grec, à lire un peu d'Homère, je sentais une influence, oui. J'ai eu, comme beaucoup d'enfants au moment de la puberté, une crise un peu mystique et naturellement, je lisais avec grande curiosité et grand appétit certains de ses écrits sur le Christ, sur le mysticisme, enfin sur le Christ surtout. D'autre part, j'étais une petite fille normale et moi, elle écrit, le Christ est descendu et m'a prise, et c'est quelque chose de magnifique. Moi, quand je lisais cette phrase, j'étais en grande admiration, mais également très surprise, parce que moi, j'avais 12-13 ans et je rêvais plutôt de Gérard Philippe. Donc, je prenais une direction un peu différente. Plus tard, pendant des années, je dois dire que je ne l'ai pratiquement pas lu. Il fallait à tout prix que je me sépare d'elle. J'étais dans la littérature, j'enseignais la littérature et j'ai dû me séparer d'elle. Je ne pouvais pas la lire. On me posait des questions sur elle et je ne voulais pas y répondre. Je me détachais d'elle. J'ai commencé à la lire, mais presque à tâtons et avec beaucoup de précautions. Peu après une maladie grave que j'ai faite, une pneumonie, que j'ai faite à l'âge qu'elle avait quand elle est morte, à 34 ans. Et ensuite, en me remettant, j'ai eu une convalescence assez longue, et en me remettant, j'ai commencé tout doucement à la lire parce que je me suis dit « ça va, je suis plus âgée qu'elle ». C'est peut-être idiot comme sentiment, mais je me suis dit, là, voilà, je peux commencer à regarder. Et j'ai lu ses cahiers, j'étais très touchée, c'est par ça que j'ai commencé. Et puis, bien sûr, j'ai continué. Ça a été par intermittence. Récemment, quand j'ai commencé à écrire pour de bon ce livre chez l'Éveil, quand je dis pour de bon, c'est parce qu'il y a très longtemps que j'accumule des notes. J'ai deux dossiers différents, les voyages, les promenades avec mon père, d'une part, j'ai été très proche de mon père et il a été veuf pendant les 12 dernières années, j'étais énormément avec lui. Je suis allée avec lui au Japon, donc ce grand chapitre sur notre voyage au Japon pour son prix, il a reçu le prix Kyoto, qui est une sorte de prix Nobel japonais. Et ça, c'était depuis un moment. Mais j'avais un dossier qui s'intitulait « Nièce de ». Et dans ce dossier, je mettais tout ce qui me venait au sujet de ma tante, ce qu'on me disait. Quelquefois, c'était un peu ridicule. Quelquefois, c'était touchant, ce que je pouvais penser. C'était le dossier nièce de. Et ça, il y a un moment que ça dure, mais c'était un dossier. Je n'y touchais pas beaucoup, sauf pour ajouter des petites anecdotes, quelquefois. Et puis, maintenant, je peux la lire. J'ai commencé à la lire. Je dois dire que j'ai beaucoup lu de ma tante depuis un an, en fait, toute l'année, où j'ai décidé vraiment que c'était le moment que j'avais l'âge d'écrire ça et puis d'arrêter de donner l'impression que peut-être j'étais complexée par rapport à ma tante, parce que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas complexée. C'était autre chose. C'était un sentiment assez intense, mais ce n'était pas être complexée. Et je trouve que ce qu'elle écrit est magnifique. Et pour moi, c'est un grand poète, ma tante. Je ne suis pas philosophe. Et donc, il y a des cheminements philosophiques qui, franchement, m'ennuient et ne me concernent pas. Je ne suis pas philosophe. Mais les phrases que je peux comprendre, ou les paragraphes dans les cahiers, ou dans l'attente de Dieu, dans les pensées sans ordre concernant Dieu, je trouve que c'est magnifique. Et quelquefois, je relis une phrase plusieurs fois et je me dis, cette phrase n'a peut-être pas grand sens, mais mon Dieu que c'est bien écrit. Et il m'est venu à l'idée qu'elle pouvait peut-être être parfois comparée à Hölderlin, le grand poète, qui était très fou, on le sait, et dont les poèmes sont d'une beauté fulgurante. Et je crois que c'est la grande force de ma tante, et c'est ce qui me bouleverse le plus, c'est la beauté de ce qu'elle écrit. Et je connais ses cahiers, elle écrivait, elle faisait très peu de ratures, très peu de brouillons.
Vous êtes vous-même croyante, Sylvie Veil ?
Ah, c'est une question qu'on me pose souvent, et vous avez lu le livre, vous voyez que je suis toujours amusée parce qu'on se sent libre de me poser cette question. J'ai du mal à y répondre. J'ai eu un événement qui m'a beaucoup marqué il y a une quinzaine d'années. Mon fils a été très malade pendant plusieurs semaines, a été hospitalisé. Et d'autres mères auraient peut-être commencé à tricoter ou à faire de la tapisserie pendant les heures qu'elles ne passaient pas à l'hôpital aux côtés de leur fils. Moi, j'ai entrepris de lire la Bible en hébreu d'un bout à l'autre. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire connaissance des commentaires bibliques, en particulier du grand Rashi, à faire connaissance d'autres exégètes et commentateurs du Moyen-Âge, et à me plonger dans le judaïsme de mes ancêtres. À m'y plonger avec émotion, je n'aime pas personnellement le mot spiritualité, spirituel. Je parlerai plutôt de grand soutien, de structure. Je n'ose pas prononcer le mot de croyance, mais certainement d'émotion, de structure, de soutien, oui.
Essayez de décrire à l'auditeur qui n'a pas encore lu votre livre, puisqu'il vient de paraître, cette rencontre avec votre tante, Simone Veil, grande philosophe française, au bout du tunnel.
C'est un des chapitres, enfin un des passages que je raconte. Je dis moi-même que j'ai un peu honte et que ça fait un peu farfelu, mais c'est vrai. J'ai eu au cours de cette grave pneumonie que j'ai eue à l'âge où ma tante est morte, j'ai eu pendant quelques jours où on a désespéré de me sauver. J'étais dans un hôpital dans le Vermont, aux États-Unis, et j'ai eu cette vision du tunnel, du long tunnel blanc. Et effectivement, ma tante m'est apparue. Et j'ai un peu honte de raconter ça, parce qu'en France, ça fait sourire. On dit non, t'as lu des histoires. Mais c'est vrai, j'ai eu cette expérience. Je l'ai peu racontée après, parce que je trouvais que c'était un peu ridicule. Et là, je me suis dit, mais enfin, ça m'est arrivé, c'est vrai. Et voilà.
Alors, symboliquement parlant, le fait que l'épreuve de la maladie vous y rapprocher de votre tante, puisque c'est à partir de ce moment-là que oui, vous disiez tout à l'heure que vous étiez rentrée dans ses écrits.
Oui, c'est vrai. Et moi, je ne m'étais à aucun moment dit, voilà, j'ai l'âge où Simone est morte, je ne pensais pas du tout à
c'est
ça.
C'est l'épreuve de la maladie, elle est partie elle-même d'une tuberculose.
Oui, je faisais mes cours de littérature, j'élevais mon fils, elle est morte de tuberculose et d'autres choses aussi, on en parlera après. Mais j'ai donc eu cette pneumonie très très grave, j'ai tout fait, on ne trouvait pas l'antibiotique qui convenait. Et j'ai vu ma tante au bout d'un tunnel, au fond d'un tunnel un peu brumeux et blanc, qui me séduisait. C'était une vision de séduction. Elle m'attirait vers elle. Et ça, c'était tout à fait violent. Elle m'attirait vers elle, elle me disait de la suivre. Et moi, je lui ai opposé quelques arguments, que je raconte ça dans mon livre. L'argument choc étant évidemment mon fils que j'adorais et que je n'étais pas du tout prête à quitter, qui avait 8 ou 9 ans.
Sylvie Veil, nous vous retrouvons dans un instant, le temps d'une pause musicale. Canal Académie a le plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Veil, qui vient de faire paraître aux éditions Buchet-Chastel son ouvrage intitulé « Chez les Veil ». Alors justement, Sylvie Veil, parlez-nous un peu de la famille Veil. Alors, les Veil, ça correspond à qui ? Alors, on a vu le frère, on a parlé du frère, de la sœur. Tous les deux, comment s'entendaient-ils ?
Très bien. Ils s'entendaient parfaitement. C'était une immense complicité. Quand ils étaient petits, ils se battaient. Je sais, j'ai su ça par ma grand-mère. Ils se battaient et ils se battaient en silence pour que les parents ne viennent pas les séparer. Et ils s'envoyaient des nions pas possibles, mais en silence. Et si on essayait de les séparer, ils se retournaient vers les parents et commençaient à taper les parents, du moins à leur dire « laissez-nous nous battre ».
C'était une expression comme une autre.
C'était une expression comme une autre. Et ils étaient très très proches, très très... je pense que ça a été abominable pour mon père d'être obligé d'aller annoncer la mort de sa sœur à mes grands-parents. Ça a été quelque chose d'horrible, d'autant plus que mon père le dit dans ses mémoires, dans ses souvenirs d'apprentissage, qu'il avait cru sa sœur indestructible. Il n'a pas cru une seconde qu'elle partait à Londres pour mourir. Et quand je parle d'éveil, chez l'éveil, c'est ce que je nomme un peu plaisamment le quatuor veil. C'était mes grands-parents, c'était Bernard et Selma, que nous appelions Biri et Mime, et André Simone. Et ils faisaient vraiment quatuor. Ils se déplaçaient ensemble, mais c'est pas seulement ça, c'est que c'était une famille extraordinairement unie. Ma grand-mère avait un côté extrêmement possessif, et elle tenait son petit monde très près d'elle, mais toute leur correspondance, ils s'écrivaient constamment quand ils étaient séparés et se racontaient tout et plaisantaient. Ils avaient leur propre plaisanterie, leur propre langage presque. Et donc c'est ça, chez les Veil, c'est le quatuor Veil. Mais ce n'est pas seulement ça. J'ai voulu faire quelques recherches et j'ai des documents également chez moi que personne ne connaît. Je voulais faire des recherches sur les antécédents d'André et de Simone, et donc les miens, enfin mes ancêtres, nos ancêtres, parce que les biographes de ma tante ont un peu nettoyé la famille Veil, la famille Reinhardt, qui était la famille du côté de ma grand-mère, en faisant des juifs tellement libéraux que c'est à peine s'ils avaient entendu le mot synagogue. Or, c'est tout simplement pas vrai. Donc j'ai voulu rétablir un petit peu ces bases dans un judaïsme très présent. Je pense que c'est effectivement, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et c'est vrai, mais mon père et ma tante ont été élevés sans religion, ils ont été élevés dans un milieu athée, mais où il y a eu, et ça ne fait aucun doute, une imprégnation inconsciente tout à fait juive, parce que les parents sortaient de milieux où on était comme ça, où on connaissait, les grands-parents connaissaient le Talmud, c'était une forme de raisonnement, une forme de discussion, une structure intellectuelle, donc il y a certainement eu imprégnation. Mais au-delà de cela, j'ai voulu remonter plus loin dans les générations. La famille strasbourgeoise, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, le cousin Alphonse qui est parti en Amérique, en Californie, et qui a sauvé mes grands-parents, en fin de compte, parce qu'il les a sortis, il a sorti Simone aussi, mais elle est rentrée à Londres, mais enfin, il les a sortis de France, et mes grands-parents étaient repérables à un kilomètre à la ronde, ils auraient été déportés, ils auraient été tués. Et puis l'autre côté, le côté Reinhardt, qui était le côté Galicie, le côté Europe centrale, qui me fascine, parce que j'ai fait des recherches très très précises et je suis bien documentée sur toute cette ascendance de ce qu'on appelait la Galicie, et c'est très intéressant. C'est intéressant de façon très variée. D'abord, il y a un côté assez exotique. Ils viennent des régions, ils habitaient dans les régions d'où viennent les grands mouvements hassidim, les grands mouvements de mystiques juifs. Et ça, je pense que ma tante Simone, toute chrétienne qu'elle se soit faite, elle avait pas mal de globules lui venant de ces mystiques juifs d'Europe centrale. Aussi parce que, et c'est un des chapitres peut-être les plus nourris de mon livre, sur sa conception de la charité. Ma tante a été obsédée de l'idée de charité. Et le concept de la charité dans le judaïsme, le concept de la tzedaka, est quelque chose d'extrêmement important et a le sens que lui donnera plus tard ma tante. C'est le Baal Tzedek est le juste, et donc la charité, c'est le même mot, Tzedek, Tzedaka, et donc c'est aussi une forme de justice, une façon de rétablir l'équilibre. Et je voulais essayer de montrer à quel point certaines des phrases magnifiques de ma tante sur la charité renvoyait à une conception judaïque de la tzedaka. Et puis, au niveau plus anecdotique, joli, presque digne d'un roman que je n'ai pas écrit, il y a toute une kyrielle de grand-mère, d'arrière-grand-mère, de trisaïeule, des petites dames pieuses et très charitables dans des villes diverses d'Europe centrale, à Bergejani, à Brody, à Lemberg, qui étaient obsédées de charité, connues. Il y a même une des petites grand-mères à qui un brigand terrifiant de la région est venu dire « Vous ne craindrez jamais rien de moi parce que votre charité, votre bienfaisance, est connu dans toute la région. » Donc, je voulais mêler l'intellectuel et le pittoresque, voilà.
Et en quelque sorte, vous nous faites là, Sylvie Veil, la démonstration que chez les Veil, on a très bien vécu le Premier Testament et son prolongement, le Deuxième Testament, en donnant au Deuxième Testament ses racines dans le Premier Testament.
Oui, seulement ma tante les refusait, ces racines. Mais
oui, alors justement, pourquoi l'a-t-on taxé ? Et puis en écrivant ce livre, je crois que vous voulez aussi replacer certaines choses dans leur réalité. Pourquoi l'avoir taxé d'antisémitisme un peu rapidement, peut-être ?
Oui, certains dans les milieux juifs, effectivement, l'accuse d'avoir été antisémite. Il est exact qu'elle a rejeté ses propres racines juives d'une certaine façon, surtout au point de vue intellectuel. Elle ne niait pas être juive.
Elle les a oubliées ?
Oubliées, non. C'est qu'elle a vraiment voulu rattacher le christianisme exclusivement à l'hellénisme. Elle était horrifiée par l'Ancien Testament et l'a pris peut-être trop au sérieux, cet Ancien Testament, parce que maintenant, beaucoup de recherches prouvent que, bon, par exemple, ma tante était horrifiée que les Hébreux aient massacré les Hittites. Or, des recherches prouvent maintenant que les Hébreux n'ont probablement pas massacré de Hittites.
Sylvie Veil, est-ce que vous n'intervenez pas là pour faire le lien entre votre tante et ses racines, puisque vous êtes plongée vous-même? Est-ce que c'est pas ça votre...
C'est
est-ce
moi
que c'était
lien,
pas
alors,
ça la mission qui attendait Sylvie Veil?
Peut-être, et d'ailleurs mon père me l'a dit dans les dernières années de sa vie, il m'a dit « Tu fais ce que ma sœur aurait fini par faire, car elle était honnête », il ajoutait « dans l'ensemble ». Elle était honnête dans l'ensemble, ce qui horrifie un petit peu les grands amoureux de Simone
Veil. Oui, mais c'est toujours l'humour des Veil.
C'est l'humour des Veil, oui.
Alors... De l'humour, on passe au côté grinçant. Vous écrivez page 49 de votre livre en parlant du grand-père et de la grand-mère. « Je ne peux donner ni tort ni raison aux uns ni aux autres. Je peux seulement dire qu'au nom de Simone, ils ont réussi à donner à mes années d'enfance un goût souvent amer. » Ces mots restent raisonnables par rapport à une autre phrase, elle chargée, lourde de ressenti que l'on trouve quelques lignes plus bas. « Je ne me le suis jamais, jamais pardonné à la suite d'une scène que vous avez mal vécue dans l'enfance. »
Oui, ce que l'on n'a pas bien vu ou dit à l'époque et que maintenant je dis, n'est-ce pas, maintenant nous sommes, notre époque est très psychologue et on était moins psychologue quand j'étais enfant. La vérité, c'est que la mort de Simone, et ça a été une mort désespérante pour mes grands-parents parce que, oui, elle est morte de tuberculose. En vérité, les médecins qui l'ont soignée ne désespéraient absolument pas de la sauver. Elle était jeune, elle n'était pas très atteinte. Elle s'est laissée mourir de faim. Elle refusait de manger plus que ce qu'elle pensait être la ration de tous les Français. Son cœur était en France. Elle aurait voulu d'ailleurs être parachutée en France avec des résistants. Elle était frêle, elle était maladroite. Personne n'a jamais pris au sérieux un instant son désir d'être parachutée. Enfin, on prenait peut-être son désir d'être parachutée au sérieux, mais enfin, il n'est venu à l'idée de personne de la parachuter. De Gaulle, à l'époque, a dit « mais elle est complètement folle ». Il était à Londres et ce projet lui a semblé fou. Et elle est devenue désespérée, très triste. J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait connue à Londres et ça m'a beaucoup touchée, cette petite jeune femme qui se sentait inutile, qui était désespérée et qui refusait de manger. Donc, elle est morte de cela aussi.
Elle est morte de compassion, c'est ce que
elle
vous
est morte,
nous expliquez.
Oui, de compassion et
d'impatience de ne pas y aller, de ne pas être
oui,
là.
Oui, oui, et d'obstination dans la ligne qu'elle s'était choisie. Elle ne supportait pas d'être à l'arrière. Mais donc, sa mort a totalement brisé la famille. Et j'ai grandi dans une famille qui a été brisée par cette mort. Et ce n'est pas rare, la mort d'un membre jeune d'une famille peut détruire cette famille, si, à moins que cette famille ait une foi extraordinaire. Enfin, il y a des familles qui sont particulièrement héroïques, particulièrement, mais la famille Veil a été détruite et mes parents et mes grands-parents ont très rapidement commencé à se disputer. Et ça a été d'abord moi qu'on se disputait, ensuite ça a été les manuscrits de ma tante que mes grands-parents et mon père ont commencé à publier. Et il y a eu des disputes à ce sujet, c'était des disputes absolument pas d'argent, c'était des disputes sur la façon de publier, qui aurait les manuscrits et qui ferait quoi et qui consulterait qui. Et ensuite, ça a porté sur l'appartement de la rue Auguste Comte, l'appartement dont mes grands-parents auraient voulu faire un musée et que mon père, lui, aurait préféré habiter avec sa famille. Et ça a été des années très, très dures pour moi, enfant, car ça a été un divorce à quatre. Ça a été les années où on parlait aux grands-parents, les années où on ne pouvait même pas aller leur dire bonjour et les embrasser, les années où les grands-parents d'ailleurs ne nous parlaient pas. Et ça m'a laissé des souvenirs d'une immense tristesse. Oui, c'était très triste pour une enfant.
Vous écrivez, Sylvie Veil, « J'aurais pu passer mon enfance, mon adolescence et encore plusieurs décennies d'âge adulte, non seulement à froisser toutes les lettres de ma tante,
mais à les plier
pour en faire des petits bateaux,
à les mordre ou à leur baver dessus.
Oui. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi le ferais-je maintenant ? Nous vous retrouvons dans un instant. Cette année 2009, il y aura donc tout juste 100 ans que naissait la grande philosophe française Simone Veil. Canal Académie a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui la nièce de Simone Veil, Sylvie Veil, qui vient de faire paraître aux éditions Buchet-Chastel son ouvrage intitulé « Chez les Veil ». Alors Sylvie Veil, s'il fallait donner une définition, définir votre livre, que pourriez-vous nous dire ?
C'est un livre que j'avais besoin d'écrire, que j'avais envie d'écrire, que j'ai écrit très vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des années que j'empile des notes, soit sur ma vie avec mon père, avec qui j'ai passé les 12 dernières années de sa vie, enfin pas tout le temps, j'ai un mari, j'ai un fils, mais enfin avec qui j'étais beaucoup. Sur ma tante, est-ce que ça a été d'être la nièce de la sainte, d'une certaine façon ? C'est un ouvrage de souvenirs, un ouvrage sur la famille, un ouvrage d'auto-définition par rapport à cette famille. Je suis écrivain depuis un certain nombre de décennies et surtout nouvelliste. Et la présentation de ma famille, j'ai eu envie de la faire sous forme de nouvelles. Et ce sont des nouvelles qui ont très souvent des chutes, des mots de la fin. C'est une série de tableaux. Donc oui, il y a beaucoup d'affectifs, mais enfin, c'est aussi un travail de nouvelliste. Dire qu'il y a de l'imaginaire, de l'imagination, oui, mais ce n'est pas de la fiction. Je crois qu'on appelle ça de l'autofiction, mais même pas, parce que je ne voulais pas le transformer en fiction. Je voulais donner simplement la forme, la structure de nouvelles, parce que c'est un genre qui m'est cher, dans lequel je suis à l'aise, à des récits qui sont dans l'ensemble totalement vrais et sincères. Mais naturellement, dès qu'on met les choses en mots, ça devient quelque chose d'un peu différent.
Ils ouvrent sur un imaginaire réel, c'est ce qu'on pourrait dire.
Oui, quelque chose comme ça. Et je me suis sentie très libre en écrivant ces morceaux, ces vignettes, ces petites nouvelles, la grande histoire de ma grand-mère, l'histoire, les métamorphoses du Coucouxaï, l'œuf de coucou, comme sa famille l'appelait. J'ai fait des nouvelles, mais des nouvelles vraies sur ce qu'a été la vie, l'atmosphère dans la famille Veil.
On sent un grand amour et beaucoup de jubilation, raconter tout ça.
Oui, absolument, tout à fait. C'est un peu grinçant de temps en temps.
Mais ça vit.
Je le crois, je l'espère. J'ai adoré écrire ce livre, je l'ai écrit
alors,
très vite.
Oui, mais alors, ce livre, ce que vous ne dites pas encore, c'est qu'à l'intérieur de ce livre et tout à la fin, il y a une révélation. C'est un livre de révélation aussi.
C'est un livre de révélation. La révélation n'est peut-être pas la partie la plus importante du livre. Elle est importante. Il y a un basculement. Elle est importante parce qu'elle définit ma position par rapport à la famille, par rapport à ma tante et ça a été une révélation.
On n'en dira pas plus.
On ne peut pas en dire plus parce que je ne veux pas donner le mot de la fin.
Quel a été votre vécu, Sylvie Veil, vos impressions, vos réactions émotionnelles, réflexions intellectuelles devant la responsabilité de raconter? Parce qu'il y a la révélation que vous nous apportez, il y a toute cette, comme on le disait, cette joie que l'on ressent à écrire, à nous donner, à nous, lecteurs, à découvrir tous ces personnages que vous avez aimés, que vous avez admirés et avec qui vous vous sentiez bien. Quelle impression, etc., de livrer en quelque sorte toutes sortes d'informations qui jusque-là appartenaient en quelque sorte à la sphère privée des Veil et donc en conséquence à la sphère privée de votre tante, la grande philosophe française Simone Veil. Est-ce qu'il n'y avait pas là un dialogue entre vous, entre
oui, vous-même? Oui, et là vous faites allusion à la seule difficulté qu'il y a eu à écrire ce livre pour moi. Il y avait des moments où je me disais, mais enfin, je ne vais pas écrire ça tout de même. Est-ce que je veux vraiment qu'on sache que... Enfin, je ne fais pas des révélations ni très méchantes, ni indécentes. Mais enfin, oui, je me disais, j'écris sur ma tante qui est tellement connue. Est-ce que c'est très mal? Est-ce que je devrais... Par exemple, je parle, oui, de ces brouilles entre mes parents et mes grands-parents, de ce que j'appelle le divorce à quatre dans cette famille brisée. J'en avais déjà parlé de façon romancée dans mon roman « Les reines du Luxembourg » il y a pas mal d'années, mais c'était romancé. Je n'arrivais pas à y toucher directement. Et là, je domine ce sujet et... J'ai eu des moments où je me disais « mais c'est très mal d'écrire ça » et puis en même temps... Je pense que c'était nécessaire, je ne l'écris pas méchamment, je l'écris par moments tristement. Et je me disais aussi qu'il y a presque un devoir de montrer la réalité, parce qu'il y a des personnes qui me disent mais ça a dû être merveilleux, mais d'être la nièce de Simone Veil, mais quel bonheur, quelle chance. Bien, oui, peut-être, mais il y a eu la grande tristesse de sa famille. Et au fur et à mesure, moi, je suis devenue mère. J'ai eu un fils qui a eu des moments de difficultés de santé. Et je me suis surprise à m'identifier de plus en plus à mes grands-parents et à me dire que j'avais envie de faire parler les parents de Simone. Parce que moi, maintenant, je me rapproche de l'âge qu'ils avaient et je me sens proche d'eux. Et j'avais envie, oui, de les faire vivre, eux, de montrer ce que ça a été, d'être les parents de la sainte, d'être... ça n'a pas été toujours facile. Pour ce qui est de parler de mon père et de révélation au sujet de mon père, alors, mon père, tout le monde connaissait son caractère. Il était, je dis quelque part, qu'il était mondialement connu, presque autant pour son impatience. Primo Levi écrit sur... il y a un petit passage très, très drôle, il y a des dialogues entre Reggie et Primo Levi, où c'est Reggie qui dit André Veil était connu pour son caractère de cochon. Eh bien oui, c'est vrai. Donc là, je ne surprendrai personne. Ça me fait plaisir de parler un peu de l'intimité. J'ai rencontré au printemps dernier une jeune mathématicienne qui m'a dit « Ah oui, les mathématiciens vont aimer avoir quelques détails sur l'intimité d'André Veil, parce qu'il a écrit des souvenirs d'apprentissage, mais c'est un exercice de style, c'est beau. Il ne se livre pas beaucoup, il raconte ce qu'il veut bien raconter, mais il ne livre pas énormément de son intimité. »
On pourrait dire que c'est quelque chose qui donne chair à des écrits, par exemple comme ceux de votre tante. Et c'est très intéressant de donner chair à une personnalité et ne pas simplement se cantonner à ce qu'elle
a écrit. Oui, ça a été un désir que j'ai eu aussi et un plaisir de la montrer telle qu'elle était dans la famille, parce que je ne l'ai pas connue vivante, mais elle était présente constamment. On parlait d'elle, elle était là. Et je l'ai beaucoup imaginée. J'ai vécu dans l'appartement où elle avait vécu aussi. Elle était là, elle était très, très présente. Et je connaissais évidemment beaucoup d'anecdotes. J'ai eu envie de donner chair. C'est tout à fait le mot juste à des écrits et de montrer un peu les coulisses de façon peut-être malicieuse.
Alors, lorsque le dernier mot a été couché sur le papier, quelle impression avez-vous eue? Et puis maintenant, l'aventure qui commence, de la publication, des appréciations qui vont vous venir de tous côtés par rapport à un registre tout personnel que vous nous confiez dans ce livre.
Eh bien, je les attends, parfois de façon un peu angoissée, mais aussi je suis très heureuse d'avoir fait ce livre. Et quand j'ai écrit le dernier mot, j'ai pas eu une impression que c'était fini. J'ai pensé c'est une sorte de conversation qui continuait.
Vous nous avez parlé de la santé à des moments délicats de votre fils, rassurez-nous.
Oui.
C'est un grand jeune homme qui
c'est
vit
un très
bien
grand jeune
vie.
Homme marié depuis plusieurs années.
D'accord,
qui vit bien
très
sa
bien.
Vie.
Mais la souffrance, souvent terre d'épreuves, mais des épreuves qui nous constituent et qui nous font aller de l'avant et qui nous font. Et même grâce auxquelles on voit des perspectives auxquelles on n'aurait même pas pensé s'ouvrir, comme vous, votre immersion. Oui. Dans l'étude de la Torah, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Oui,
où en êtes-vous
oui.
alors maintenant et quels sont vos projets?
Je continue. Actuellement, je n'ai pas de projet très précis, mais l'étude de la Torah, oui, bien sûr.
Donc, vous continuez d'enseigner la littérature française dans une université?
J'ai arrêté depuis quelques années. Je me consacre à l'écriture, à l'étude de Simone Veil et de la Torah.
Merci de votre passage devant les micros de Canal Académie, Sylvie Veil, et nous disons donc bonne route et longue vie à votre livre.
Merci beaucoup.